Entendu, ça touche l'industrie automobile puis l'industrie agroalimentaire.
Yes, on réduit entre autres là, les droits de douane pour ce qui est des graines de canola canadiennes. Donc ça, c'est ramené à 15%, ce qui est comme la bonne nouvelle pour le Canada. Et la farine de canola, les homards, les crabes, les pois canadiens qui seront aussi exemptés de droits de douane chinois au moins jusqu'à la fin de l'année. Par contre, quand tu reçois, faut que tu donnes aussi le Canada qui va autoriser l'importation de 49 000 véhicules électriques chinois à un tarif de 6,1 %, ce qui devrait rendre certains modèles plus abordables, mais ce qui devrait aussi mettre Doug Ford dans tous ses États en Ontario.
Ouais, j'ai hâte d'entendre ce que Donald Trump va avoir à dire aussi, ainsi que David Chabot, chroniqueur international, qui est avec nous au bout du fil. Salut, David.
Salut, les boys.
Merci d'être là. C'est une bonne nouvelle pour l'industrie automobile au Canada, cette entente-là entre le Canada et la Chine sur l'importation de véhicules électriques chinois?
Bien, j'ai le goût de te dire absolument pas. Par contre, c'est comme un moment où on se rend compte qu'il est temps qu'on arrive en ville. Parce que les véhicules chinois électriques sont extrêmement compétitifs, sont pas chers, sont très, très subventionnés aussi. Là, on pourra en reparler après. Mais ils sont pas chers et sont très, très avancés technologiquement. Il s'agit de regarder juste sur YouTube, là, il y a des chroniqueurs qui vont analyser les véhicules chinois. Puis tu te rends compte que ce qu'on a sur le marché en ce moment est très cher et pas tant innovant. Donc là, quand on va rentrer, une quantité qui est quand même pas si grande que ça, là, 49 000 véhicules, ça paraît beaucoup, là, mais dans un marché comme le Canada, 40 millions de personnes, c'est pas tant que ça. Mais là, je pense que les gens vont avoir un petit goût de qu'est-ce qu'il pourrait avoir de mieux, finalement. Puis, tu sais, vu que les prix sont compétitifs puis on rentre avec un droit de douane minimal, ben je pense pas que demain matin, l'industrie de l'auto américaine, mais en Ontario, va s'effondrer. Mais c'est comme une espèce de... Ah, on est en 2026 aujourd'hui, puis les voitures Ford ou GM ou Chrysler, ou en tout cas, peu importe c'est quoi, là, c'est rendu Stellantis, là, mais c'est peut-être plus le nec plus ultra du marché en ce moment. Là.
Est-ce que Doug Ford va être de bonne humeur? Est-ce que Donald Trump va tweeter puis insulter le Canada et les États-Unis? Le Canada et la Chine, pardon.
La réponse, c'est non et oui. Fait que là, Doug va trouver ça tough, parce que là, évidemment, une grosse partie du PIB ontarien est basée sur l'industrie de l'auto. Mais lui, dans le fond, sa province, puis ça, c'est un commentaire plus général avec le Canada. Faut diversifier, on le dit depuis longtemps, puis il faut aussi vendre des choses à valeur ajoutée. De faire des véhicules pour des entreprises américaines, c'est le fun parce que ça fait travailler notre monde, c'est des jobs relativement payants, mais on crée rien de canadien. C'est pas quelque chose qui est local, puis que les autres pays vont se déchirer pour acheter. On fait pour les autres avec un bon salaire en passant. Donc, pour Ford, à court terme, c'est sûr que ça veut dire que c'est une gestion de crise, mettons qu'il va falloir qu'il se démêle avec ça. Je m'attends à ce que Trump déchire sa chemise, nous dise qu'on est des partenaires pas fiables, puis que comment qu'il va réagir, là. Évidemment, c'est toujours aléatoire. C'est-tu des nouveaux tarifs? C'est-tu des sanctions? Je sais pas quoi, là. Ça sera à voir aujourd'hui, mais certainement qu'il sera pas content avec ça. Sauf qu'en même temps, tu sais, évidemment, il est pas très rationnel comme dirigeant, mais t'as pas mal causé ton propre trouble parce que tu nous envoies dans les mains des autres. T'sais. À un moment donné, quand tu donnes pas d'amour à ta blonde, ben, ça se peut qu'elle aille magasiner ailleurs. Mais c'est un peu ça qui se passe entre le Canada et les États-Unis. Puis là, ben, nous autres, on est obligés de se démerder puis trouver ailleurs des partenaires que ça leur tente de faire de la business avec nous autres sans essayer de nous écraser. Puis c'est ce qui se passe avec la Chine en ce moment.
L'entente avec le Mexique, les États-Unis, le Canada, on en est rendu où dans ce dossier-là? Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir une signature ou c'est latent actuellement?
Ben, tu sais, le fameux ACEUM, là, c'est en vigueur jusqu'en 2036 ou 39, là, je suis pas certain exactement de la date, mais il y a comme un processus de révision en cours d'entente, si on veut, puis c'est dû pour être dans les prochains mois. Puis là, Trump, je pense que cette semaine, là, a dit, « Bon, moi, l'assume, dans le fond, je sais que le Canada en a bien, bien besoin. Moi, ça m'intéresse pas tant que ça. » Puis il y a quelques mois, il nous disait, « Ah, je vais les tordre, tu vas voir, on va les casser en deux. » Fait que là, il souffle le chaud et le froid par rapport à ça. Mais il est tellement convaincu que sa stratégie de tarif fonctionne puis qu'il crée la valeur avec ça, puis les investissements aux États-Unis sont phénoménales, qu'on dirait que là, en ce moment, Trump a dit, « Bof, j'ai pas tant d'intérêt à rouvrir ça. On verra bien qu'est-ce qu'il nous demande. » Fait que là, il laisse la porte entrouverte pour négocier. À sa défense, Trump, c'est un négociateur. Donc là, c'est-tu conscient, ce qu'il dit là, de dire, « On laisse une porte entrouverte pour aller chercher des gains. » c'est tout simplement que sa faveur du jour, c'est-à-dire qu'il s'en sacrait. J'ai pas cette réponse-là, là. Mais tu sais, normalement, avec ce que le Canada fait maintenant, les États-Unis devraient dire, oh, attends un peu, là, notre partenaire au nord avec qui c'est le plus facile de faire des échanges, puis qui a une quantité de ressources naturelles phénoménale, est en train de creuser d'autres personnes. Faudrait que je me rassoie à la table, mais je sais pas si on va aller jusque-là.
Mark Carney est assez particulier. Là, il a signé avec les Chinois. Là, on apprend ce matin dans les journaux que le Canada a confié ses tanks à des hommes qui sont liés à des transactions controversées au profit d'un général du Qatar. On nous dit qu'il y a une entreprise du Qatar qui a obtenu une cote de sécurité qui donne accès à des secrets de l'OTAN. C'est assez particulier, ça, cette histoire-là. T'sais, le ministère de la Défense qui a donné un contrat de 2 milliards à KNDS Canada pour l'entretien de ses tanks, puis il y a des hommes louches à l'intérieur.
Ouais, ça, c'est... Quand je lisais l'article ce matin, je me dis, ça, c'est la grande naïveté canadienne qui était caractéristique de Justin Trudeau dans le temps, là. Je ne veux pas y mettre ça sur ses épaules à lui directement, mais c'était, on était un peu kumbaya. Tout le monde était fin, tout le monde était gentil. Puis bon, on va faire des échanges avec des amis, puis ils sont pas mal intentionnés. Mais s'il y a bien un secteur dans la vie où on doit être extrêmement sévère puis précautionneux, c'est sur la défense, parce que c'est des secrets militaires. Là, la nouvelle qui sort là, finalement, pour résumer, pour ceux qui l'ont pas vu, là, le Canada donne un contrat d'entretien à une entreprise KNDS qui fait de l'entretien des chars Léopard 2. Cette entreprise-là a des filiales mondiales. Puis les deux dirigeants locaux canadiens ont des liens avec un ancien général qatari qui est rendu ambassadeur en Russie. Donc là, la préoccupation, c'est de se dire, est-ce que ce général-là qui s'occupait des renseignements militaires du Qatar, là, c'est important de le dire, est-ce qu'on a une espèce de breach de confidentialité là-dedans parce que l'entreprise à qui on confie nos tanks a des liens avec une autre puissance là, au Moyen-Orient? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Qatar a acheté des dizaines et des dizaines de Léopard 2 de la part de l'Allemagne il y a quelques années. Puis les dirigeants de KNDS Canada, l'entreprise à qui on a donné le contrat d'entretien, ont été mêlés à cette transaction d'achat-là du Qatar par l'Allemagne là, des Léopard 2. Puis ils ont passé à la caisse en passant, puis ils ont fait 113 millions avec ça, puis ça, c'est sous enquête en Allemagne. Donc là, il y a plein de choses louches là-dedans, mais le Qatar a quand même des chars Léopard 2 physiquement sur place. Donc là, le vrai dommage réel de qu'est-ce qu'ils ont pu tirer du contrat d'entretien au Canada versus qu'est-ce qu'ils ont acheté eux-mêmes comme tank au Qatar, je suis pas sûr qu'il y ait un dommage réel. Par contre, c'est de la grande naïveté parce que, tu sais, l'article finalement du Journal de Montréal qui ont fait l'enquête avec Der Spiegel, là, qui est le journal allemand, je sais pas si je l'ai bien dit, là, mais le ministère de la Défense canadien dit ben on n'était pas au courant. Puis moi, ça, c'est ça qui me fait vraiment peur, parce que au-delà du vrai dommage, il y a le processus où on confie des choses confidentielles, puis c'est le ministère de la Défense qui donne les contrats, puis ils sont même pas au courant de tous ces éléments-là, ou en tout cas, ils disent ne pas l'être. Ça, c'est vraiment inquiétant pour la suite, parce que là, on s'en va acheter des F-35, puis ça, c'est des secrets militaires de haut niveau. Puis on est en mode... Frenzy, là, c'est le Boxing Day, il faut tout acheter militaire pour se conformer aux 2% de l'OTAN. Donc là, nos partenaires là, dans l'OTAN, les autres pays qui, eux, sont sérieux, notamment les États-Unis, mais on pense à la France, la Grande-Bretagne, tout ça, ben là, ils vont se dire que le Canada sont pas nécessairement fiables. Fait qu'est-ce qu'on va leur vendre nos meilleurs secrets militaires, sachant que ça va peut-être se retrouver dans le journal? Puis ça peut nous faire du dommage à long terme.
C'est peut-être nous qui écoutons trop de films, mais j'étais persuadé que l'armée canadienne avait une genre de section intelligence là, pour savoir ce genre de truc-là. Le Qatar, là, c'est pas un pays doux. Là. C'est un pays qui héberge des terroristes, là, dont des leaders du Hamas. C'est pas des gens avec qui tu veux faire affaire, surtout quand il s'agit de matériel aussi sensible que ça.
Ben oui, il y a une section de renseignement militaire. Puis on a le SRS au Canada aussi qui a, entre autres, ce genre de mandat-là à faire. C'est la même chose que le SRS doit faire dans la vie, c'est collecter du renseignement puis faire de l'analyse de risque par rapport à nos partenaires. Donc, c'est pour ça que je te dis, tu sais, je trouve que c'est une grande naïveté dans tout ça, parce qu'on a donné un contrat à une entreprise qui est semi-locale, là, c'est une filiale canadienne d'une entreprise internationale, puis ça s'est fait par appel d'offres, puis cette entreprise-là a obtenu la cote fiabilité OTAN, là. Donc, apparemment, c'est la deuxième plus importante cote de fiabilité que tu peux avoir. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment eu un processus qui a été fait pour analyser l'entreprise, ses actionnaires, etc. Puis, malgré tout, ils ont dit, ben, tout est beau, rubber stamp, on passe au contrat. Puis je vais te faire juste une comparaison en immobilier. Avec la CHL, il y a un processus pour te faire évaluer comme grand partenaire, surtout au Canada, là, pour les grands investisseurs immobiliers. Puis c'est un processus qui, à mes yeux, semble plus important ou plus plus confidentiel, si on veut, que ce qu'on voit dans le journal le matin, parce qu'il faut vraiment que tu dévoiles toutes tes couleurs de bobettes pour avoir l'autorisation de faire affaire avec la CHL. Puis on vend pas des tanks, puis on n'a pas de système confidentiel qui peuvent tuer du monde à distance. Donc là, quand je te parle de naïveté, c'est que tous ces gens-là, ils ont des questions à répondre, puis ça demanderait quasiment une commission d'enquête fédérale, parce que ça va être c'est-tu systématique, dans le fond, de tout le reste de notre processus avec toutes les autres entreprises puis les processus d'armement dans le futur, ou c'est une anecdote seulement, puis c'est vraiment à plate, mais on passe à autre chose, tu sais.
Et on parle de ça en terminant, si tu veux bien, David Chabot, chroniqueur international. L'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qui rencontrait Donald Trump hier, dit avoir offert le prix Nobel de la paix, sa médaille du prix Nobel de la paix à Donald Trump. Et Donald Trump, qui l'a remercié dans son dernier tweet là, sur Truth Social, c'est assez particulier. On ne sait pas s'il l'a accepté ou non, mais lui, il lui remercie de lui avoir offert. Je trouve ça particulier. Moi, de donner sa médaille du prix Nobel de la paix. Elle veut l'acheter, quoi?
Ben, clairement, c'est ça. Puis Trump, il disait à tout le monde, je suis prêt à me vendre. Tu sais. C'est vraiment particulier comme situation. Premièrement, un prix Nobel, ça se transfère pas. Là. L'institution, je pense, c'est en Suède, le prix Nobel, là, ils ont dit, non, t'as peur, je te le donne à toi, tu peux pas le vendre à quelqu'un d'autre ou le mettre sur eBay. Là, tu sais. C'est pas comme les bagues du Super Bowl. Mais encore là, même, tu passes une bague du Super Bowl, mais c'est pas toi qui l'as gagné, tu sais. Fait que là, c'est quand même particulier que Trump, c'est lui, tu sais, si Machado disait par elle-même, hey, je te l'offre parce que, regarde, cette année-là, t'as fait des grandes choses pour la paix, puis je trouve que, à la limite, on doit le partager ou tu le mérites plus que moi, puis ça vient seulement d'elle, c'est une chose. Mais c'est Trump lui-même qui a annoncé ça très clairement à tout le monde. J'aimerais qu'elle me le donne. Donc là, parce que c'est vraiment bizarre, là. Moi, je trouve ça vraiment ridicule. Là.
Parce qu'il voulait absolument le prix Nobel. Là. Il avait écrit à ce moment-là, « J'ai mis fin à 8 guerres et la Norvège, pourtant membre de l'OTAN, a stupidement choisi de ne pas me décerner le prix Nobel de la paix. » Tu sais, il l'avait sur le cœur.
Ben oui, il l'a sur le cœur. Puis, tu sais, je veux dire, tu peux pas forcer ces choses-là. Ça démontre un manque de classe pareil, mais on le sait pourquoi. C'est parce que Barack Obama a gagné le prix Nobel parce qu'il a fait le discours du Caire, puis au début de son premier mandat, il a été extrêmement actif pour la diplomatie. Avec le recul du temps, est-ce que ça méritait vraiment un prix Nobel? Je suis pas certain, mais il y avait une espèce de Obama mania à ce moment-là, puis il l'a reçu. Puis là, on dirait que Trump, il dit, moi, je suis au moins aussi bon que Obama, sinon mieux. Comme il dit tout le temps, je suis meilleur que Biden. Fait que là, ben, il essaie d'aller matcher tous ses accomplissements. Mais là, pour en revenir au Venezuela, c'est quoi la conséquence de tout ça? C'est bizarre parce que Mme Machado, il a offert à le visiter à Washington et tout ça. Mais Trump, de l'autre bord, il dit, je suis pas certain que je donnerais vraiment le lead du pays. Là, elle manque peut-être un peu de torque. Là, ça, c'est dans mes mots à moi. Là. Puis, tu sais, c'est Delcy Rodriguez qui run le pays. Puis ça va bien, on a une belle relation avec elle. Alors que Machado est très positive envers Trump. Puis Delcy Rodriguez, celle qui run le Venezuela en ce moment, souffle le chaud et le froid, elle essaie de démontrer que c'est encore un pays autonome, là, bien que c'est peut-être pas si fort, si vrai que ça. Donc là, la conséquence d'offrir le prix Nobel à Trump pour Machado, il est peut-être pas celle qu'elle pense. Là, t'sais. Je pense pas qu'elle a acheté nécessairement son poste de présidence avec ce geste-là, mais c'est vraiment un peu dystopique comme situation en ce moment. Là. C'est savoureux à suivre quand même. Là.
Mais Delcy Rodriguez, là, qui est l'ancienne vice-présidente de Maduro, qui est devenue présidente avec la bénédiction de Washington, elle a carrément négocié en secret avec les États-Unis. Je pense que le Qatar aussi était impliqué. Puis ce qu'on nous dit, c'est que c'était réglé depuis octobre, là, que advenant le cas où Maduro partait, c'était elle qui allait être mise en place. Et quand on a fait l'opération, quand les Américains sont allés au Venezuela, il y a eu une résistance de la part des gardes du corps de Maduro, mais c'était pas des Vénézuéliens, les gardes du corps de Maduro, c'était des gens qui... c'est du personnel de sécurité qui était fourni par Cuba. Donc, le gouvernement vénézuélien était probablement au courant que Maduro allait se faire kidnapper, mais les gardes ont vraiment tiré sur les hélicoptères qui sont arrivés. Il y a des images qui circulent un peu partout.
Ouais, je pense qu'il y a quelques membres de l'armée vénézuélienne qui ont essayé de résister pareil, tu sais. À ma connaissance, les gardes du corps de Maduro n'avaient pas des missiles Stinger ou des choses comme ça. Mais effectivement, que le gros de la résistance, qui finalement n'était pas si grande que ça, là, ils se sont fait donner une leçon de force spéciale pas mal par les Deltas.
Il y a probablement eu de la collaboration, parce que pour franchir les lignes du Venezuela en hélicoptère, clair qu'il y a des gens qui t'ont laissé passer. Là.
Ben, oui, là, parce que avec les renseignements qu'on a de plus en plus, on se rend compte que ça avait l'air patenté d'avance. Mais en même temps, tout ce qu'on a comme feedback de cette opération-là, c'est que malgré les grands missiles, les S-300, là, les systèmes antiaériens russes qui avaient été achetés à grand coup de tambour pour dire que c'est les meilleurs au monde, tout ça a été jamé du jour au lendemain. Là, t'sais, à une fraction de seconde, il y a des avions américains, les Growlers, qui sont rentrés, qui ont fait sauter tous les radars. Fait que, t'sais, c'est une opération qui était très très textbook de la part des Américains pour tout péter la défense aérienne puis rentrer les hélicos après, comme ils ont fait en Irak en 2003. Puis ça, c'est toujours un message aux autres pays. Vous pensez que vous êtes capable de résister aux États-Unis, mais quand ils se décident pour vrai, puis tu ne peux rien faire. Donc là, quand ils sont arrivés à Caracas, ben de ce qu'on en comprend, ils ont tout fait sauter les défenses aériennes. Se sont posés. Les Cubains n'étaient pas au courant. Se sont toutes faites tirer. Ils prennent Maduro, ils partent avec. Puis là, pour revenir à ton point initial, ça semble avoir été patenté d'avance. Là, il y a de plus en plus d'informations qui sortent là-dessus que depuis octobre 2024, Delcy Rodriguez était en discussion avec les États-Unis pour dire « Je suis votre plan B, puis moi, je vais être prête à négocier. »
Exact.
Puis je vais être plus compétente que Maduro, qui n'était pas terrible.
Donc là, savoir si c'est Machado qui va la remplacer, ça, c'est une autre histoire. David Chabot, c'est toujours un plaisir.
Merci les boys.
Bye bye. Stéphane qui nous écrit par texto 88-971-101. C'est hallucinant d'écouter tout le monde par rapport à la Chine et comme si c'était une bonne nouvelle, la négociation avec le Canada. Moi, j'ai fait mon bac en relations internationales dans les années 90 et déjà, on étudiait la Chine et son désir de prendre le contrôle du monde entier. C'est une nation patiente qui planifie des coups à l'avance. Carney, c'est un mondialiste. Il a dit hier qu'on avait un nouvel ordre mondial. La Chine ne veut pas faire affaire qu'avec des pays qui les avantagent dans leurs intentions de devenir la puissance mondiale. Le Canada se lance dans les bras de la Chine. C'est vraiment inimaginable. Ouais, c'est pas une bonne nouvelle. À mes yeux, à moi, j'aurais préféré qu'on se rapproche peut-être un peu plus des Mexicains puis des Américains. Mais là, visiblement, on doit trouver un plan B. Puis c'est nos anciens ennemis qui sont devenus nos amis parce que nos anciens ennemis sont ennemis des États-Unis. C'est assez particulier comme situation. Vous avez des choses à nous dire? 88-971-101.
Je vous rappelle, incident 20 Est, fermeture, hauteur Robert Clich, donc de la 73, le détour qui se fait par la 73 Sud et l'échangeur 130 rue du Parc. Des chutes, c'est une mise en portefeuille de véhicules lourds. Ça commence à causer quelques problèmes, mais je me répète, là, c'est une bonne nouvelle qu'on soit vendredi et que ce soit plus léger sur le réseau, fait que c'est pas si pire.
Marceau le matin. Marceau.